Voilà. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour parce que tu es cet ami fidèle, celui qui nous a aimés comme nous l'avons chanté. C'est toi qui nous as aimés le premier, c'est toi qui nous as choisis. Tu es venu vers nous et tu nous as rachetés de nos péchés. Nous voulons te remercier, te louer pour cela. Et tu fais de nous tes serviteurs et nous te louons encore pour cette grâce que tu nous accordes. Nous te prions que tu parles encore à nos cœurs ce soir dans ta parole, à travers ta parole, que ton esprit nous saisisse et nous rende obéissants. Seigneur, nous voulons apprendre à mettre en pratique ce que tu nous révèles à travers ta parole et donne-nous des cœurs vraiment obéissants et attentifs pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, nous avons commencé une petite série de méditations, on a dit sur le thème de la sainteté, hein, la sainteté pratique, on pourrait dire, pour nous, mais un peu plus, de manière plus générale, le thème de la sainteté qui est un grand thème quand même dans la parole de Dieu. Et nous sommes exhortés dans l'Écriture à être saints, hein. Si on lit dans 1 Pierre chapitre 1. Ça résonne un peu, non, le son? Un peu? J'ai l'impression que ça va. Un petit peu, non? Ça vous gêne peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais 1 Pierre chapitre 1 et au verset 15, il dit: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » L'apôtre Pierre dit donc que celui qui nous a appelés, celui qui a appelé les croyants, qui les a sauvés, qui les a rachetés, il est saint, et par conséquent, par voie de conséquence, verset 15, c'est ce qu'il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc il ne peut pas avoir un aspect de notre conduite où nous ne recherchions pas la sainteté. Mais ce qu'on veut, je voudrais souligner ici ce soir, c'est que on voit ici que l'exigence de la sainteté dans la vie du chrétien a pour mobile la sainteté de Dieu. Parce qu'il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est la raison pour laquelle on doit se conduire avec sainteté. Donc notre exhortation à vivre dans la sainteté est basée et fondée sur la sainteté de Dieu. Et ce que Pierre dit ici, c'est une citation, hein, qu'on trouve beaucoup dans le... Quel livre, vous savez? Peut-être vous avez un rappel dans votre Bible. Dans le Lévitique. Hein, dans le Lévitique, on trouve... Donc regardez avec moi Lévitique chapitre 11. On trouve dans le Lévitique chapitre 11... Et au verset 44, nous lisons ceci, « Car je suis l'Éternel. » Alors, l'exhortation qui est donnée, c'est « Ne rendez point, verset 43, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. » Verset 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Oui, on trouve l'exhortation ici. Et vous ne vous rendez point impurs par tout, verset 40, oui, c'est ça. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Okay. Si on regarde en Lévitique 19, Lévitique chapitre 19, on lit aussi des paroles similaires. 19, verset 2, il dit, l'Éternel parle à Moïse, il dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Voilà encore ce qu'on trouve. Une page plus loin, Lévitique 20, verset 26, nous pouvons lire au verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Et donc là, on a déjà, on va venir une définition de ce que c'est qu'être saint. « Je vous ai séparé des peuples pour que vous soyez à moi. » Et encore Lévitique 21 et verset 8, nous pouvons lire, « Tu garderas un sacrificateur comme, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. » Donc, on voit encore ici, il dit qu'on est saint, mais non seulement on est saint, mais Dieu dit, moi, je vous sanctifie. Je vous rends saint, ici. Alors, la sainteté, c'est quoi? Si on devait définir la sainteté, je ne sais pas comment vous définiriez dans votre esprit, mais on voit bien qu'il y a l'idée ici, à la fois d'être séparé, je vous ai choisi pour que vous soyez séparés des autres peuples, et puis aussi de consécration, hein, de mise à part. Vous regarderez le sacrificateur comme saint, comme parce qu'il offre l'aliment dans le temple. Et donc ici, il y a la question d'être mis à part. Il y a quelqu'un qui a donné cette définition dans un commentaire. Il dit « La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. » Donc on veut voir un petit peu la sainteté de Dieu, enfin un aspect de la sainteté de Dieu ce soir, hein. Donc la sainteté de Dieu, c'est, il dit, signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. Et sa sainteté est un attribut. Alors, est-ce que vous savez quelle est la particularité de cet attribut de Dieu, la sainteté, par rapport aux autres attributs que l'on a dans l'Écriture? Bien, oui. On ne peut pas l'avoir. C'est transmissible. D'accord, c'est transmissible. Ça. L'amour n'est pas transmissible, tu veux dire? Peut-être, je ne sais pas, non, oui, peut-être. Tu veux dire qu'on peut, ça se communique, qu'il dit « soyez saint car je suis saint », ça, dans ce sens-là, peut-être, oui. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas « soyez omnipotent parce que je suis omnipotent ». Il ne dit pas ça. donc, on dit parfois que ce sont des attributs communicables, c'est ça, et puis il y en a d'autres qui sont non communicable, mais c'est pas juste, c'est beaucoup plus simple ce que je vous demande, hein. Oui, j'ai entendu, il me semble, la réponse là quelque part. Voilà, c'est le seul attribut qui est, comment dirais-je, mentionné avec une triple répétition, hein. On trouve saint, saint, saint et l'Éternel. On n'a pas amour, amour, amour et l'Éternel. Omnipotent, omnipotent, omnipotent et l'Éternel. Souverain, souverain, souverain à l'Éternel. Mais c'est le seul attribut dans l'Écriture où Dieu est appelé trois fois saint. Et ça dénote quelque chose. On peut lire deux textes au moins dans lesquels c'est écrit. Ésaïe chapitre 6 que vous avez lu certainement dans les groupes. Donc je vous lis le verset 3. Dit il criait, donc là, c'est une vision qu'a le prophète Ésaïe. Et il dit qu'il voit des séraphins, rappelez-vous, qui avec des ailes, six ailes, deux dont ils se couvrent la face, quoi, deux dont ils se servent pour voler et deux dont ils se couvrent les pieds. Et il dit, ici, ils chantent et ils disent, ils crient et ils disent, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, ouais, déjà, regardez ici la proximité avec la sainteté et puis la gloire. Ça va revenir tout à l'heure, la sainteté, gloire. On a dit tout à l'heure dans la définition que la sainteté signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. Et la vision qu'a Ésaïe, il dit qu'il voit le Seigneur assis sur le trône dans son temple et il y avait ces cris des anges qui disaient « Saint, 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 l'Éternel ». Apocalypse chapitre 4, verset 8, on trouve aussi cela, il dit « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire nuit et jour, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Donc cela souligne vraiment l'importance de cet attribut. Non pas que les autres attributs ne sont pas importants, mais c'est probablement que cet attribut englobe tous les autres, qu'il pénètre tous les autres attributs. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il est, est empreint de cette sainteté. Et certainement, le Seigneur veut que l'on saisisse à quel point il est parfait en sainteté. Le cantique des rachetés d'Israël, là, on a Exode chapitre 15, hein, je crois que c'est le cantique de Myriam, comme Myriam chante avec Moïse et tout, ils disent, le verset exact je ne l'ai pas, mais il dit magnifique, Dieu tu es magnifique en sainteté, hein, magnifique en sainteté. Ça veut dire, c'est quelque chose qui parle de toute la perfection même de Dieu. Et donc, c'est une manière de souligner, je crois le fait de le dire trois fois, de souligner cette importance. Tout ce qui concerne Dieu est saint. Sa demeure est sainte. Hein. Psaume 24, verset 3 le dit. Tout ce qu'il fait, il le sanctifie. Il sanctifie un jour pour qu'on puisse l'adorer. Dans Genèse 2, 3, vous lisez ceci. Quand il vient quelque part, le lieu devient un lieu saint. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers de ton pied quand Moïse voit le buisson, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc Dieu, par sa présence, sanctifie toutes choses. Donc pour s'approcher de lui, tout doit être saint. Et on a vu dans le livre du Lévitique avec les jeunes ce dimanche, hein, comment Dieu a tous les sacrifices que Dieu a institués, c'était pour montrer en partie que le peuple ne pouvait pas s'approcher de lui n'importe comment, parce qu'il est saint. Et donc, la première chose que les sacrifices mettaient en évidence, c'est la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, et que pour s'approcher de lui, eh bien, on pouvait pas, c'est impossible. Il fallait qu'il y ait la mort, il fallait qu'il y ait un substitut, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses, pour un prêtre, un intermédiaire pour pouvoir s'approcher de lui parce que Dieu est saint. Et donc le livre du Lévitique, c'est le livre qui exprime la sainteté de Dieu. Souvent on demande aux gens, est-ce que vous avez déjà lu, quel livre de la Bible vous avez déjà lu, Genèse, beaucoup de lèvent la main, etc. Et quand on arrive à Lévitique, est-ce que vous avez déjà lu le Lévitique en entier? Parfois il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent parce que on trouve que c'est difficile. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qui concernent les sacrifices, etc. Mais à chaque fois, et on trouve beaucoup cette expression, ce sont des choses saintes, des choses très saintes. Et c'est un livre qui parle vraiment de la sainteté de Dieu. Alors, j'aimerais juste peut-être prendre une histoire, parce qu'il se trouve aussi dans le Lévitique, et qui révèle aussi la sainteté de Dieu. C'est une histoire terrible que vous connaissez bien. C'est l'histoire de Nadab et Abihu. D'accord? Donc, dans Lévitique, chapitre 10, juste avant le chapitre 11 que nous avons lu, où Dieu a dit, je vous ai, vous seriez saints car je suis saint. Donc, on va lire Lévitique, chapitre 10, et on va lire à partir du verset 1. Lévitique, chapitre 10, à partir du verset 1. Lévitique 10, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 7 même. Lévitique 10, 1 à 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël, Etsaphan, c'est lui qui a dit ça, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, ne vous découvrez point la tête, et vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. C'est terrible comme histoire. Hein? C'est l'une des deux, peut-être, trois, peut-être on pourrait dire, si on prend celle du Nouveau Testament, où on voit quelque chose qui est lourd. Hein? Donc Nadab et Abihu sont les fils de Aaron. Ce sont les fils aînés d'Aaron. Hein? Puis on voit deux autres encore qui s'appellent ici Éléazar et Itamar, qui sont deux autres fils. Alors quelle était la position de ces deux fils? Ils étaient quoi? Si. Des sacrificateurs, hein. Ils avaient aussi la charge du sacerdoce. Mais ils étaient, ça veut dire que les sacrificateurs sont les descendants d'Aaron, hein. Ils étaient, les prêtres, ils étaient, les tout premiers, hein. Et certainement avec une certaine importance. D'accord? Parce que, par exemple, en Exode chapitre 24, regardez Exode chapitre 24. Exode 24. Lorsque Dieu dit à Moïse, 24 verset 1, il dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Exode 24, 1. Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Quel est le nom de ces 70 anciens d'Israël? On ne les connaît pas. On ne nous dit pas. Par contre, on sait qu'il y a Moïse, Aaron, Nadab et Abihu. Ce sont des... Ils sont dans une position particulière. Ils... À la tête, hein, Dieu les cite à la tête. C'est Dieu qui dit. Il dit pas dit à Aaron et ses fils. Il dit à Aaron, trois, Nadab, Abihu et 70 des anciens. D'accord? Qui savent, on sait qui c'est, mais ils sont pas nommés ici. Et donc, c'est une manière, je pense, que quelque part, qui souligne qu'ils avaient quand même un rang particulier, hein, dans cette fonction qui leur était confiée. Ils étaient vus, bien sûr, de tout le peuple ici. Et puis, ils doivent donc officier, offrir comme le Seigneur le demande. Alors, on va s'attarder un tout petit peu au péché de Nadab et d'Abihu, puisque c'est un péché, on le voit ici, ils sont jugés pour cela. On pourrait regarder leur péché dans la forme. Hein. Quel a été leur péché, d'après ce que dit le texte? Quel a été leur péché? Dans la forme, je parle dans la forme. Hein. Qu'est-ce qu'on lit? Ils ont apporté devant l'Éternel un feu étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on sait exactement ce que ça veut dire? Vous avez une idée? Est-ce que vous avez votre idée de ce que ça veut dire? Oui? Présence étrangère, oui. Bon, on ne sait pas exactement, hein. Je crois que globalement, bon, on peut avoir, puis penser, comme tu as dit, hein, d'autres. Il y a beaucoup de gens qui font des hypothèses autour de la nature même de cette faute, de ce péché. Mais il faut reconnaître que le texte ne dit pas beaucoup. Il dit qu'il a apporté un feu étranger. Alors on peut penser à des passages où il est question comme dans Exode chapitre 30, par exemple, si vous regardez Exode chapitre 30 et au verset 9, il est dit « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. » C'est une interdiction ici, mais c'est une interdiction concernant parfum. Mais on trouve pas quelque chose de particulier concernant le feu, hein. Bon, il y avait un épisode, je rappelle, où on se rappelle où Moïse demande à des idolâtres de prendre des brasiers, d'y allumer du feu, etc. Mais il y a pas, on trouve pas vraiment quelque chose qui fait référence au feu étranger ici. Pourtant, ici, notre texte dit, la fin du verset 1, il dit quoi? Ceux qui ne leur avaient point ordonné. D'accord? Ça veut dire que Dieu ne leur a pardonné cela. Et on se demande, mais où est-ce qu'on trouve l'interdiction formelle dans la Bible où on ne peut pas faire porter un feu étranger? Est-ce que c'est écrit formellement? On ne voit pas. Mais certainement, Aaron et Nadab le savaient. Donc, ils sont punis parce qu'ils ont fait quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait commandé. Donc, la fin du chapitre 9, par exemple. Regardez la fin du chapitre 9. Le verset 24 dit, le feu, verset 23, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc, ici, il est question de qui c'est qui allume ce feu-là, déjà? C'est l'Éternel, hein? C'est Dieu lui-même qui allume ce feu, qui consume à la fois l'holocauste, les graisses. Et certains commentateurs pensent probablement ce qui aurait dû être fait, c'est d'utiliser ce feu que Dieu a lui-même allumé pour continuer à allumer les brasiers qu'il fallait allumer. Donc utiliser et pas utiliser autre chose. Donc on n'a pas une idée précise, mais peut-être c'est probablement tout ce que certains pensent que c'est tout ce que Aaron, pardon, que Nadab et Abihu ont dû faire qui constitue leur désobéissance et le fait de ne pas avoir accompli ce que Dieu a demandé. On peut se poser la question, quelle a pu être leur intention? La Bible ne le dit pas non plus, mais qu'est-ce qui fait que parfois, puisque bon, tous les hommes sont identiques, qu'est-ce qui fait que parfois on peut faire d'une manière qui n'est pas vraiment commandée par Dieu? Qu'est-ce qui peut faire qu'on fasse quelque chose pour servir Dieu, mais qui n'est pas forcément commandé par Dieu? Est-ce que c'était quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait? C'est pas les fils d'Élie ici, hein. On se rappelle des fils d'Élie, ce qu'ils faisaient, c'est pas du tout la même attitude que les fils d'Élie, hein. C'était allumer un feu. Donc ça semble être pas beaucoup de choses quand même. Très peu, non? Très peu. Pourtant, on voit que c'est grave compte tenu du jugement qu'ils ont subi ici. Mais bon, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui peut faire voilà. Oui, que l'on ne soit pas assez attentif. Peut-être la position que l'on peut occuper. Hein. Peut-être le fait qu'on ne voit pas en quoi c'est grave. C'est peu de choses, ça peut nous arriver, on voit pas, c'est une petite chose, on voit pas en quoi ça, là. Oui, c'est ça, la légèreté. C'est pas qu'on sait que c'est forcément, on veut foncièrement faire ce qui est mauvais, mais on se dit, mais bon, au lieu de prendre ça, je prends ça, c'est pas, après tout, c'est du feu, quoi, ça va allumer aussi, et ça va faire pareil. Sauf que c'est pas ça que Dieu avait commandé. Parfois, ça peut être l'idée, on veut innover quelque chose aussi, on veut faire quelque chose de différent. Hein. Donc c'est pas forcément, je veux dire, il n'y a pas forcément l'intention de désobéir foncièrement, mais néanmoins on désobéit quand même parce qu'on fait preuve, comme David dit, soit de légèreté ou soit parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas en quoi cette chose est contraire à la volonté de Dieu. Donc ça c'est sûr, on pourrait dire que ça c'est sur la forme, mais sur le fond. C'est quoi son péché exactement? Si on regarde du point de vue de Dieu, c'est quoi son péché? Il n'a pas, ils n'ont pas, parce qu'ils sont deux, ils n'ont pas sanctifié Dieu devant le peuple. Et il dit quoi? Et ils n'ont pas non plus glorifié. Vous voyez ce qu'on avait dit quand on avait dit, hein, on a parlé de la définition tout à l'heure, on avait dit que la sanctification, c'est la sainteté de Dieu, c'est le fait qu'il est séparé du péché et qu'il cherche toujours à ce que sa gloire soit manifestée. Et Dieu dit ici, le peuple, Moïse dit plutôt à Aaron que c'est ça que Dieu voulait dire quand il disait qu'il veut être sanctifié et qu'il veut être aussi glorifié. Alors, le jugement d'Aaron et de Nadab, de Nadab et d'Abihu est sévère, hein. C'est la mort subite. Il n'y a pas eu d'avertissement. Dieu n'a pas dit, bon, ça s'est passé une fois, je vous avertis la prochaine fois. Il n'y a pas eu écrit quelque part, le jour où on offrira un feu étranger, voilà ce qui arrivera. Parfois, Dieu donne des commandements comme ça, c'est pas écrit non plus, ici. Ils n'ont pas été repris par quelqu'un, par Aaron, parce qu'il n'y avait pas le temps pour le faire. Ils n'ont pas eu l'occasion de se repentir de ce qu'ils ont fait. La sanction a été immédiate. Et vous pouvez imaginer le sentiment d'Aaron, le père, qui a ses deux fils aînés, qui sont consacrés et qui, le premier jour de leur office, ils sont frappés de la sorte. Mettez-vous à la place d'Aaron. Les deux fils. Et comme ça, ils sont frappés au moment où ils vont officier. Leur tenue, tout est prêt. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dieu? C'est un père. Ce sont ses fils. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dieu? C'est d'imaginer ce que vous auriez peut-être dit. Hein? C'est sévère. Peut-être qu'il aurait voulu voir Moïse et dire, mais Moïse, mais je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait ici? Mais certainement, il va voir Moïse. Et avant qu'il puisse prononcer un seul mot, Moïse lui dit, verset 3, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et peut-être que si dans son cœur, il y avait toute cette charge pour pouvoir dire et puis exprimer son incompréhension, le texte nous dit qu'est-ce qu'il fait? Il garde le silence. Moïse dit, Aaron, en fait, cette affaire, c'est la sainteté de Dieu. Il dit, si Dieu veut être sanctifié, ce qui s'est passé, c'est la traduction du fait que du commandement que Dieu donne quand il dit qu'il veut être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que Dieu est saint et on ne peut pas s'approcher de lui de n'importe quelle manière. Et même le détail qui concerne le feu à utiliser pour le brasier, ça appartient à sa sainteté. Et on n'a pas le droit de dire, je peux faire autre chose. C'est ça que Moïse dit en substance à Aaron. Il dit, c'est ça, quand Dieu dit, je veux être sanctifié, c'est ainsi, c'est dans les moindres détails qu'il veut l'être, dans tout. Et Aaron, il est silencieux. Mais ce qui est encore le plus dur, c'est que Moïse dit à Aaron, vous n'allez pas porter le deuil. C'est ce qu'il dit à la suite. Hein. Regardez au verset 4, verset 6. Moïse dit à Aaron et aux deux autres fils, Éléazar et Itamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements. » Ce qui est l'expression vraiment du deuil ici. Hein. Il dit « De peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute l'assemblée, pleurer sur l'embrasement. Mais vous, non. Non. Parce que la sainteté de Dieu est bien au-dessus de toutes ses obligations familiales. C'est au-dessus de ça. Et vous devez continuer le service. Il ne doit pas s'interrompre. Il ne doit pas s'interrompre. La sainteté de Dieu est au-dessus de ça. Au-dessus de ça. Laissez les autres porter le deuil. Vous, vous ne pouvez pas le porter. Si vous le faites, la sainteté de Dieu va se manifester encore et vous allez mourir. Et le texte dit ici, ils firent ce que Moïse avait dit. Ils firent ce que Moïse avait dit. Dieu veut être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. Et je crois que ce texte nous montre à quel point Dieu est saint. Peut-être pas définir avec des mots exactement ce que ça veut dire que Dieu est saint, mais on peut voir quel effet la sainteté de Dieu produit lorsqu'elle n'est pas respectée comme elle devrait l'être. Lévitique 10, versets 9 et 10, dit ceci, donc juste à la suite. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Et regardez la raison pour laquelle il dit cela, « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Il dit, votre rôle de sacrificateur, c'est de faire paraître, de montrer qu'il y a une différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. C'est ça la mission du sacrificateur. Montrer la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et dans le fond, Nadab et Abihu n'ont pas maintenu cette différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ont pris du profane pour accomplir des choses dans le domaine de la sainteté. Alors, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu implique quand on regarde ce passage? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur la sainteté de Dieu? D'après ce qu'on a dit, la sainteté de Dieu implique que l'on cherche avec soin comment il veut être adoré. La sainteté de Dieu implique qu'on cherche avec soin comment il veut être adoré, comment il veut être approché. On ne peut pas décider qu'on s'approche de Dieu comme on a envie de s'approcher de lui. Parce que Dieu est saint. Nadab et Abihu ont offert ce qui n'était point commandé. Hein, vous voyez ça ici? Alors, il y a dans la conception du culte, par exemple, deux tendances qui s'affrontent en général, hein, même encore aujourd'hui, hein, où il y a ce qu'on appelle le principe normatif et le principe régulateur. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, le principe normatif consiste à dire on peut faire tout ce que l'Écriture n'interdit pas. Et le principe régulateur dit on ne peut faire que ce que l'Écriture commande. Si l'Écriture ne le commande pas, je ne peux pas le faire. Okay? Donc, l'Écriture le commande soit de manière directe, explicite, soit de manière implicite, on peut le déduire à travers des principes, etc. Mais en tout cas, on peut le déduire d'un commandement de la Bible. Hein. Et je crois qu'ici, on pourrait presque penser que c'est un principe régulateur qui est donné, puisque Moïse dit, pas Moïse, le texte ici, oui, le texte nous dit qu'ils ont apporter un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été commandé. Donc, ils n'avaient pas le commandement de le faire. Et ils l'ont fait. Ils auraient dû donc chercher dans la loi, enfin je veux dire, ils connaissaient, mais ils auraient dû chercher dans la loi exactement comment ils doivent faire. Ici, ou alors déduire comment ils doivent faire. Et c'est ça que Dieu attend quand nous nous approchons de lui. Sa sainteté implique qu'on cherche avec soin comment il veut être adoré. C'est exactement ce qui s'est passé avec Uzza, lorsque Uzza a touché l'arche, vous vous rappelez, et puis qu'il a été frappé aussi dans 2 Samuel 6. Eh bien, David, quand il parle plus tard et qu'il fait venir des Lévites pour porter l'arche comme il faut, il dit, nous ne l'avions pas la première fois, nous n'avons pas agi la première fois selon la loi de l'Éternel. D'accord? Qu'il n'avait pas fait comme Dieu l'avait commandé. Et donc, le reproche que l'on peut avoir ici, c'est celui de faire des choses, même pour servir Dieu, sans se soucier de ce que Dieu commande réellement. Alors, on est souvent tenté par l'innovation. Comment introduire de nouvelles choses dans le culte? Comment faire participer telle ou telle personne, etc.? Comment apporter de la fraîcheur? Comment apporter du modernisme? Alors, c'est pas que ces choses peuvent être mauvaises en soi, mais tout ce que l'on fait dans un culte, le principe à retenir ici, doit être fondé profondément sur la parole de Dieu. Et il faut que l'on soit tous attentifs à cela. Et ce que l'on va faire, ça doit découler de principes bibliques. Sinon, on s'approche de Dieu de n'importe quelle manière. Et Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas toujours frappés comme il a fait pour Nadab et Abihu. Parce qu'il est un Dieu parce qu'il nous fait grâce. Mais chaque fois que l'on est tenté de dire, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, ce serait bien, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que la parole de Dieu permet de faire cela? Est-ce que dans les principes que je vois concernant Dieu, sa sainteté, on peut faire cela impunément? Et c'est ça qui doit toujours nous diriger. Il faut que ce soit ordonné par Dieu. Dieu ne laisse à personne l'initiative de savoir comment son culte doit être mené. C'est lui qui décide comment il veut être adoré. Moïse dit, c'est ce que Dieu dit quand il dit, je veux être sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et glorifié par ceux qui s'approchent de moi. Mais comment peut-on savoir comment Dieu est sanctifié et comment Dieu est glorifié? Sa parole. Il faut qu'il le dise, il faut qu'il le révèle. C'est pour ça qu'il faut chercher avec soin comment Dieu veut être adoré. Et donc la sainteté de Dieu implique que l'on cherche avec soin comment il veut être adoré. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sanctifier le nom de Dieu, c'est distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Et l'enfant de Dieu doit grandir, doit apprendre à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. C'est le rôle du sacrificateur. Dans Ézéchiel 22, je vous lis ce verset, 22 verset 26, nous trouvons ceci. Dieu dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Allez, je fais une application très actuelle de cela. C'est comme s'il disait, voilà des gens qui doivent sanctifier mes sabbats, sanctifier le jour du Seigneur, le mettre à part. Et qui ne le font pas? Ils donnent aux autres l'image que le dimanche, pour le chrétien, c'est un jour comme un autre. Ils ne le mettent pas à part pour me servir. Ils ne font pas des efforts pour être là. Les gens qui les voient, ils disent, ben, c'est pas très important, ils peuvent faire une croix là-dessus rapidement. Ils ne montrent pas que c'est quelque chose qui est saint, qui est mis à part pour Dieu. Ils violent, dit Dieu. Il parle ici des sacrificateurs, mais on peut se l'appliquer à nous. On peut se l'appliquer à nous. Et c'est la même chose pour le chrétien, donc. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, si, il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, c'est la sanctification ça, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. D'accord? Et le texte dit, ne vous mettez pas, commence avec ceci, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc, je prends l'exemple, parfois des jeunes qui veulent se marier, mais qui ne trouvent pas, ou des moins jeunes, qui ne trouvent pas... qui disent, on ne trouve pas quelqu'un pour avec qui on peut se marier. Ben, il y a tellement de gens dans le monde, il y a des gens, ils sont gentils, etc. Ils sont bien, ils sont tout. Ils sont pas contre l'évangile non plus, etc. Le texte dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit que, ici, Dieu veut que vous montriez la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Il n'y a pas d'association possible avec ce que Dieu a mis à part pour lui. Et ce qui ne lui appartient pas. Qui ne lui appartient pas dans le sens qui n'a pas été mis à part pour lui. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, je crois que je vous ai raconté cette histoire déjà, il m'a dit, si tu as un fils qui te dit, un enfant qui te dit, voilà, il est chrétien, voilà, et puis il te dit, ouais, je veux épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Est-ce que tu diras oui? J'ai dit non, je dirais non. Si il est chrétien, il ne voudra pas le faire, vraiment. Il me dit, mais ça, c'est un manque d'amour. Ça, c'est un manque d'amour. Allez dire Dieu qu'il a manqué d'amour quand il a frappé Nadab et Abihu, il aurait pu hein, garder son serviteur Aaron. Il sait que Aaron aimait son fils. Il aurait pu dire, bon, je vais quand même pas le frapper parce que la sainteté de Dieu infuse dans son amour aussi. Hein. Dieu est un Dieu saint. Et c'est nous qui avons une mauvaise conception de l'amour quand nous disons que ça, c'est pas de l'amour. Hein. Dieu dit, séparez-vous. Parce que vous êtes saint, je vous ai mis à part. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut même pas penser à faire autrement que ce que Dieu demande. Quand on commence à regarder et à dire on pourrait, c'est que on est sur une mauvaise voie. Sanctifier le nom de Dieu, quand on prie que ton nom soit sanctifié, eh bien ça veut dire je dois faire distinguer dans ma vie, dans mes choix, qu'il y a une différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ça, c'est une deuxième remarque. Et puis une troisième aussi, c'est que on voit que la sainteté de Dieu est au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute chose. Il est saint, saint, saint. Sa sainteté est même au-dessus des obligations familiales les plus légitimes. Dieu dit à Aaron, tu ne découvres pas ta tête, tu ne déchires pas ton vêtement. Ne pleure pas, les autres vont le faire. Vous continuez à servir. On a répété, mais Seigneur, c'est la famille, il faut que j'y aille, je ne peux pas, j'ai le cœur triste. Dieu dit non. Dieu dit non, parce que son service, sa sainteté se situe au-dessus de cela. Ce n'est pas qu'il manque d'amour pour le nom, parce que Dieu ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Et il est un Dieu saint, miséricordieux, et plein d'amour. Et il dit c'est par amour qu'il leur dit cela. Si jamais vous ne faites pas ainsi, vous allez encore être frappés. Il y aura encore plus de dégâts dans la famille. Donc vous continuez le service. Parce que sa sainteté se place au-dessus des choses les plus importantes pour nous et de toutes les considérations familiales, professionnelles, tout ce que nous pouvons avoir. Sa sainteté est au-dessus de tout cela. Voilà, je m'arrête là. Que le Seigneur nous aide à considérer vraiment, vraiment ces choses. Dieu est un Dieu saint. Et quand il dit, vous serez saint, car je suis saint, il est important que nous cherchions à méditer ce que ça veut dire que cette sainteté de Dieu et comment dans notre vie, dans tous les détails, nous devons chercher à nous soumettre, rechercher même cette sainteté. Prions pour lui demander hein, de nous éclairer et ayons ce désir de marcher vraiment de nous conduire dans toute notre vie dans la sainteté, parce que celui qui nous a appelés est saint. Nous te remercions, Seigneur, encore pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton amour, ta grâce. Tu ne nous as pas punis selon nos iniquités. Tu ne nous as pas frappés chaque fois que nous sommes tombés ou que nous avons péché. Mais, Seigneur, nous voulons apprendre davantage à croître dans ta connaissance, à grandir dans la sainteté aussi et à t'obéir davantage. Aide-nous, nous te prions, que ton esprit agisse en nous et que nous sachions chercher à travers ta parole comment nous pouvons nous soumettre et te sanctifier dans notre vie, faire la différence et montrer la différence entre ce qui est pur et ce qui est profane. Nous te prions ces choses pour la gloire de ton nom. Amen.